Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très très heureux d'être là, très honoré hein, de pouvoir participer à ces séminaires. J'ai qu'un regret, c'est que Julien ne m'avait pas dit qu'il y aurait des étudiants, et si j'avais su, j'aurais amené plein d'expériences à faire directement sur les étudiants, qui sont les cobayes classiques des économistes, pour essayer de rendre la présentation moins spéculative et puis plus par le faire, en fait, de voir comment est-ce qu'on s'y prend en économie comportementale. Et puis, je suis très très heureux parce que, effectivement, je travaille sur économie et droit, mais les économistes, finalement, le droit, ça ne les intéresse pas trop, en fait. Les juristes, l'économie, ça ne les intéresse pas trop. Donc, souvent, quand je vais en séminaire, il y a très très peu de monde. Et là, je vais pouvoir remonter dans mon scoring de public grâce
à ce séminaire, et j'en suis très très heureux. Alors, si on voulait regarder la question du juge et de l'économie, sûrement on remonterait à Smith, c'est-à-dire le fondateur de l'économie. On pourrait remonter sûrement avant, mais on trouve chez Smith, chez vraiment celui que tous les économistes considèrent comme le père de la discipline, on trouve pas mal de choses sur le droit, sur le juge, etc. Et puis si on égrenait tous les penseurs après Smith, fin 18e siècle, 19e, etc., 20e, on trouverait toujours des écrits d'économistes sur la question du juge. Mais pour cadrer un petit peu les choses, on peut dire, même en simplifiant un petit peu, que c'est vraiment avec l'école de Chicago et avec Posner que le juge devient un objet d'étude pour les économistes. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui est en dehors du champ de l'économie, mais ça devient vraiment un objet d'étude à part entière avec des outils très traditionnels de l'analyse économique. Et si j'étais venu il y a 30 ans faire cette conférence, eh bien je vous aurais fait un truc sur Posner, parce que à l'époque c'était la mode totale, c'était faire du Posner. Ce qui est intéressant quand même du point de vue de l'économie, c'est que la situation contemporaine de ce champ s'est énormément modifiée, dans la mesure où on assiste à une sorte de multiplicité de modèles du juge à l'intérieur même de la discipline économique. Donc, vous citiez les anthropologues et le juge, la sociologie et le juge, et donc il y a déjà toutes les disciplines différentes qui s'intéressent au juge, et puis il y a les économistes et le juge, et même à l'intérieur des économistes et le juge, en fait, vous avez énormément de représentations différentes. Je vous en ai mis une petite liste. Vous avez une certaine représentation dans l'économie des coûts de transaction. Ah oui, qui parmi vous, parmi les étudiants, fait de l'économie, ne serait-ce qu'un semestre d'économie obligatoire terrible avec des maths? Donc, il y a l'économie des coûts de transaction. Il y aurait l'économie des contrats incomplets, par exemple avec Tirole. Vous avez une représentation un peu posnérienne qui est plutôt la fin de la période posnérienne où Posner dit qu'il faut envisager le juge comme un acteur qui maximise son utilité, finalement, comme un consommateur quand il achète une brioche ou un café. Vous avez l'économie du droit appliquée au système juridique. C'est plutôt l'approche Schleifer, c'est de la macroéconomie des systèmes juridiques, où on essaye de regarder des corrélations entre une certaine organisation du système juridique et des performances économiques. Il faudrait mettre aussi la nouvelle économie politique autour des questions de contrôle de constitution, d'organisation des pouvoirs. Donc vraiment, le premier point, si vous voulez, comme prologue, hein, c'est même pas une introduction, on est vraiment comme prologue, c'est que même chez les économistes, on a une très très grande diversité des représentations du juge. Et puis, on a une petite école ici, enfin, qui n'est pas si petite que ça, qui est l'économie comportementale. Et en fait, c'est là-dessus que je vais concentrer la focale de cette présentation. Parce qu'elle me semble relativement intéressante. Et puis, finalement, elle est, je dirais, peut-être assez naturelle pour le juriste. Et vous comprendrez ce que je veux dire, pourquoi. Alors, si on essaye de définir ce qu'est l'économie comportementale, c'est pas tout à fait clair, tout le monde n'est pas complètement d'accord. Mais disons qu'on pourrait d'abord mettre deux choses, qui est l'économie expérimentale et la neuroéconomie. Dans ce cadre-là, vous définissez l'économie comportementale essentiellement par ses méthodes, c'est-à-dire de nouvelles méthodes pour tester un certain nombre de prédictions. Je parlerai un petit peu d'économie expérimentale, pas du tout de neuroéconomie, parce que j'y connais rien, et
puis aussi, enfin, il y a des relents très très matérialistes en fait de la neuroéconomie qui m'attirent pas du tout à titre personnel. Et puis on pourrait distinguer deux choses, l'économie des préférences sociales et puis l'approche économie et psychologie. Et c'est sur ce dernier point que je vais insister, uniquement l'approche économie et psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, on va coupler trois approches différentes, ou trois disciplines différentes. Le droit, l'économie, la psychologie. Donc, pour rendre les choses plus, encore plus complexes par rapport à toute cette généalogie un petit peu compliquée que je vous ai faite.
Alors, si on voulait donner des noms pour bien identifier qu'est-ce qu'on entend par économie, psychologie, droit, on mettrait sûrement Kalman et Tversky comme étant les premiers auteurs qui arrivent en tête quand on parle d'économie et psychologie. Kalman, c'est plutôt l'économiste. Tversky, c'est plutôt le psychologue. Kalman a eu le prix Nobel au début des années 2000. Et leurs travaux ont commencé dans les années 70. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres noms, Slovitch, Klovenstein, Rabin. On peut mettre Tirol dans une certaine mesure, Faire, etc. Du côté des juristes ou des politistes, vous pouvez, et j'en parlerai beaucoup, hein, vous avez Kassenstein, qui a beaucoup travaillé sur ces questions économie et psychologie. Vous pouvez aussi mettre un auteur qui est assez peu connu, mais qui est vraiment très intéressant, qui est Timur Kuran, plutôt économie des préférences sociales et un peu économie et psychologie. Bien. Donc ça, c'est un peu pour le cadrage général de ce dont je vais parler. Mais le but hein, de la présentation, c'est pas du tout de vous présenter un papier de recherche extrêmement précis, c'est vraiment d'essayer de donner une sorte de cadrage de comment est-ce que ce nouveau paradigme ou cette nouvelle approche économie et psychologie génère des nouvelles questions pour les juristes et génère des nouvelles représentations du juge par rapport à ce que disaient les économistes auparavant. Et donc, il me semble que on peut prendre cette approche économie et psychologie appliquée au droit de différents points de vue, parce qu'il y a des enjeux pour l'économie, ça c'est tout à fait clair. Vous avez des enjeux pour le droit positif, j'essaierai aussi d'expliquer pourquoi. Et puis vous avez aussi un certain nombre d'enjeux pour la théorie du droit de manière générale. J'en cite trois. D'abord, on peut se dire que ce nouveau paradigme modifie la représentation de l'acteur que l'on a, c'est-à-dire la représentation du justiciable. Ça modifie également les types d'intervention du juge, ou ses modalités d'intervention. Et puis, ça pose un certain nombre de questions de manière plus générale sur les objectifs du droit et les objectifs du système juridique de manière large, où le juge a un rôle à jouer. Alors, je vous propose de traiter ça en deux parties. D'abord, essayer de vous montrer l'originalité de ce paradigme d'économie expérimentale ou d'économie et psychologie. Et puis, une fois que vous aurez bien compris, pour les étudiants évidemment, d'essayer de regarder les enjeux que l'on peut tirer de ces développements pour le droit. Et puis, en conclusion, j'ouvrirai sur des recherches plus contemporaines qui modifient un petit peu ce que j'aurais dit dans le 2. Bien, donc qu'est-ce que l'économie comportementale et est-ce que c'est important, est-ce que c'est intéressant pour le savoir, je pense qu'il faut quand même partir du modèle classique en économie du droit, c'est-à-dire de la théorie de la rationalité parfaite telle qu'elle est utilisée encore majoritairement par les économistes. C'est-à-dire que là, ce détour, si vous voulez, est important parce que l'intérêt de l'économie comportementale se mesure en fait à l'écart qu'elle a par rapport à l'état de la théorie standard de la maximisation d'utilité parfaite. Et je pense que c'est en comprenant bien le modèle standard que finalement on voit vraiment quelle est l'originalité et quels sont les enjeux de l'économie comportementale. Alors, ce modèle standard, et Posner est vraiment une bonne illustration de ce modèle standard, fait une hypothèse qui, enfin,
cheveux cerises sur les crânes, même s'il n'y a pas beaucoup de cheveux sur les crânes de nos collègues juristes, hein, quand ils entendent l'hypothèse de rationalité, c'est-à-dire on va traiter ou on va analyser le justiciable comme étant un agent rationnel qui agit vis-à-vis des règles de droit exactement de la même manière qu'il agit dans le domaine du marché lorsqu'il achète des biens, lorsqu'il spécule sur les marchés ou ce genre de choses. Et donc on a une vision ici de la rationalité comme étant la théorie de l'action, c'est-à-dire le petit moteur qui fait tourner l'individu et qui le guide dans ses différents choix. Pour vous donner un exemple, l'un des fondateurs un peu de cette approche, c'est Gary Becker, qui a eu cette idée, en fait, quand il enseignait à Columbia, il se gare sur une place interdite parce qu'il est en retard à son cours, et en fait, il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je viole une loi, mais je sais très bien que je suis en train de la violer, mais je calcule la probabilité que je prenne une amende. Okay. Et puis, je regarde combien ça me coûte d'avoir une amende par rapport à me faire gronder par mon doyen si jamais je le rencontre dans le couloir en retard. Effectivement, c'est exactement la même chose que quand je décide d'assurer tel ou tel bien que j'achète n'importe quand. On me dit, est-ce que vous voulez une extension de garantie? Bah, j'évalue la probabilité que ça tombe en panne, je regarde combien ça va me coûter, etc. Voilà. Donc c'est la même chose. En fait, le justiciable se comporte de la même manière quand il applique les règles de droit ou bien quand il agit de manière économique. Alors, la très grande force de cette notion de rationalité, c'est qu'elle est fondée sur l'idée de préférence, en ce sens qu'on suppose qu'un agent possède des préférences qui sont des préférences rationnelles. On en parlait un petit peu de la question de la rationalité. Ici, qu'est-ce que des préférences rationnelles? Ce sont des préférences qui vérifient un certain nombre d'axiomes, ces axiomes étant considérés comme étant fondamentaux et comme étant des axiomes qui s'imposent à la rationalité ou à l'agent. Par exemple, on trouvera l'axiome de transitivité. Je dis juste parce que la question de la transitivité me sera utile tout à l'heure. Si vous avez... Si je vous demande de regarder en vous-même et de me dire est-ce que vous préférez entendre ce séminaire ou bien aller au tennis, eh bien, bon, si vous êtes là, c'est que vous préfériez apprendre des choses sur l'économie comportementale plutôt que d'aller au tennis. D'accord ? Si vous préférez aller au tennis par rapport à aller à la plage, d'accord, eh bien, ça veut dire que vous préférez B par rapport à C. Un axiome que je vais poser, ou que posent les économistes, c'est de dire si ça et ça, c'est vrai, alors ça veut dire que vous préférez l'économie comportementale à la plage. D'accord ? Par exemple, ici, c'est un axiome qui est l'axiome de transitivité. Si vous me dites je préfère A à B et je préfère B à C, alors nécessairement vous préférez A à C. On ne comprendrait pas que vous me répondiez non, je préfère quand même aller à la plage plutôt que l'économie comportementale, après les questions que je vous ai posées. Donc ça, c'est les types d'axiomes qu'on pose sur les préférences, et on en pose très très peu. Ce n'est pas très gourmand en axiomes d'avoir des préférences rationnelles. Ça, c'est le premier sens de la rationalité. Le deuxième sens de la rationalité, c'est de le prendre comme un critère de décision. C'est-à-dire, j'ai des préférences, et quand j'agis, je cherche à maximiser ces préférences. C'est-à-dire, j'essaye d'obtenir le plus grand bien-être associé à ce type de préférence. J'utilise ici le mot de bien-être, c'est-à-dire que vous pouvez raisonner, si vous souvenez de vos cours d'économie, alternativement en termes de préférences, donc c'est des choix en fait entre différentes options, ou bien en termes d'utilité. Je pourrais dire, ça veut dire que l'utilité de l'économie comportementale est supérieure à l'utilité de la plage. D'accord ? Mais ça, c'est un... Vous voyez la rationalité ici comme un critère de décision. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça c'est les années 40-50, au fur et à mesure du temps, la rationalité s'est étendue aussi aux croyances. C'est-à-dire que, non seulement on a des préférences rationnelles, on cherche à maximiser ces préférences, mais on a aussi des croyances rationnelles. C'est-à-dire qu'on utilise correctement toute l'information qui est à notre disposition pour former des croyances à propos de notre environnement. Donc, si je passe pour excès de vitesse devant un juge et que ce juge, c'est mon père, alors je peux penser qu'il va être beaucoup plus coulant avec moi. Ou le contraire, ça dépend un peu de quelle est la caractéristique psychologique de l'autre père. Mais bon, imaginons qu'il soit assez coulant. Vous vous dites, ça c'est un élément important qui rentre dans mon calcul de maximisation. Je sais que si je vais trop vite, c'est de toute façon mon père qui juge mon cas, il va être coulant, donc je peux rouler. Là, vous avez des croyances rationnelles parce que vous envisagez le monde extérieur, votre environnement, en utilisant toutes les informations que vous avez à votre disposition. Ça ne veut pas dire que vous connaissiez tout de l'environnement. Ça veut dire que chacune des informations, vous les traitez rationnellement pour en faire le fondement de vos croyances. Ça peut être sur le futur, ça peut être dans le présent, n'importe quoi, mais sans cesse, en fait, vous êtes en train de réactualiser ces croyances au fur et à mesure. D'accord ? Donc ça, c'est les trois sens de rationalité, et chacun de ces sens va m'être utile tout à l'heure. Il reste une petite question, enfin, qui est en fait une énorme question, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, de savoir est-ce que cette théorie de la rationalité, c'est une théorie qui décrit correctement les comportements de l'acteur, ou est-ce que c'est une théorie normative, ou disons prescriptive, qui dit comment vous devriez vous comporter si jamais vous étiez rationnel. D'accord ? Ça, ce débat n'est pas complètement tranché, et en fait, c'est dans ce débat que l'économie comportementale va intervenir comme étant une remise en cause de la théorie. Alors, juste pour terminer, appliqué au droit, on va plutôt raisonner en termes de fonction d'utilité. C'est le modèle Posnerien standard, c'est-à-dire tout justiciable est considéré comme rationnel. Donc il est sans cesse en train de faire des calculs pour maximiser son bien-être, et il se fiche royalement de savoir s'il viole ou pas les lois, etc. C'est simplement, il est complètement utilitariste vis-à-vis de ces règles. Les règles de droit n'ont pas d'autre substance que des prix implicites qui sont liés aux sanctions associées à la violation de ces règles. Donc vous n'avez pas d'aspect symbolique, par exemple, de la règle de droit. Pas du tout cet aspect-là dans le modèle posnérien. Et donc, à partir de ce moment-là, garer sa voiture sur un endroit interdit, la seule chose qui importe, c'est pas du tout le regard des autres, la réputation que je vais faire, que je vais avoir, d'être un mauvais citoyen, etc. Ce qui compte, c'est uniquement la sanction probabilisée liée à ce comportement, par rapport à ce que je gagne à ne pas arrêter en moteur. Okay. Et donc, en fait, les sanctions liées à la violation des règles de droit sont retransformées sous forme de sanctions monétaires, exactement comme un prix qui est ce que vous payez lorsque vous consommez un bien. Alors vous pourriez me dire, si vous n'avez pas du tout fait d'économie, vous pourriez bien attendre une peine de prison, je ne vois pas où est le prix. Bah, c'est assez simple, c'est-à-dire que si vous passez un an en prison, le prix de ça, c'est l'ensemble du coût d'opportunité lié à passer un an en prison, c'est-à-dire toutes les sommes que vous auriez pu gagner sur le marché du travail et que vous ne gagnez pas du fait de votre enfermement. Donc, on voit bien que ici, à partir du moment où chaque unité de temps a un coût implicite qui est le coût de ce que vous feriez sinon, vous pouvez tout monétiser en fait de manière extrêmement, extrêmement simple. Et puis le troisième élément de cette synthèse posnérienne, c'est que le juge est considéré comme étant un agent qui cherche à maximiser le bien-être social. C'est-à-dire qu'il est utilitariste au sens où il ajoute les différentes utilités individuelles et il essaie de prendre la décision qui rend maximum cette utilité sociale. Ou dit autrement, si on raisonne en termes de coût, il cherche à minimiser le coût social des différents comportements. Voilà. Et avec ces trois éléments, en fait, Posner débouche sur une sorte de théorie d'interprétation, je veux dire, parce que je prends une décision d'un juge, en fait, je vais essayer de la rationaliser, de l'expliquer. Au regard de ce modèle, je me demande, est-ce qu'il cherche à maximiser le bien-être, étant donné qu'il envisage les justiciables comme rationnels, et il envisage les sanctions comme étant des prix implicites sur ses comportements.
Bien. Alors, l'exemple type, je vais pas aller trop là-dedans, mais l'exemple type, c'est le modèle de responsabilité, où vous avez un agent qui cause un dommage, il choisit un certain niveau de précaution qui est X, ça lui coûte des coûts monétaires qui sont A de X, et puis, selon le niveau de coût de précaution, il fait jouer la probabilité d'accident. Plus je suis précautionneux, plus la probabilité est faible,
Et puis moins je suis précautionneux, plus la probabilité est forte. Et puis ça cause un dommage grand D qui, pour l'instant, est supposé indépendant de X. Il y a des modèles beaucoup plus compliqués, D peut dépendre de X, mais peu importe ici. Donc vous voyez que, très simplement, le modèle posnérien, c'est de dire cette activité de l'auteur du dommage, ça a des coûts qui sont les coûts de précaution et puis les coûts du dommage multipliés par la probabilité d'occurrence. Ça, c'est la fonction de tout ceci. Et donc, si je suis un juge utilitariste, ce que j'essaie de faire, c'est de minimiser ce cas, c'est-à-dire d'implémenter chez les agents qu'ils choisissent rationnellement le X étoile qui permet de minimiser la fonction de tout ceci. D'accord ? Voilà le modèle extrêmement classique, si on voulait le résumer, de Posner. J'ai subi un très fort biais d'optimisme, en fait, donc c'est pas la peine d'aller trop là-dedans si vous avez compris comment ça marche. Alors, dans ce modèle standard, comment est-ce que l'économie comportementale va jouer et pourquoi est-ce qu'elle a pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire quelle est la portée descriptive et pour l'instant de l'économie comportementale, ce qu'elle attaque dans un premier temps par rapport à la théorie standard en économie, c'est l'hypothèse de rationalité des individus. Donc ici, considérer des justiciables. En fait. Et elle le fait parce que elle a une représentation de l'individu qui est complètement différente par rapport à ce que je vous ai expliqué sur les préférences. On peut, très classiquement, ça c'est vraiment des choses que vous retrouverez dans des textes books d'économie comportementale, c'est une manière extrêmement classique de présenter les choses. On peut dire l'économie comportementale remet en cause l'hypothèse de rationalité sur trois aspects. D'abord, elle nous dit que l'égoïsme est limité, c'est-à-dire que les préférences, ici, ne représentent pas toujours du bien-être individuel, mais que d'autres éléments peuvent jouer, comme le fait de vouloir être altruiste, ou bien de faire plaisir aux autres, etc. Donc c'est pas simplement l'égoïsme, en fait, qui est la pierre de touche des préférences. Le deuxième élément, c'est que les capacités cognitives sont limitées. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, dans le comportement courant que vous pouvez avoir tous les jours, vous êtes sans cesse bombardé d'informations. D'accord ? Le modèle standard vous dit que vous êtes toujours en train de computer cette information et de modifier vos croyances en fonction des informations que vous recevez. Le modèle en rationalité limitée, c'est-à-dire en économie comportementale, vous dit en fait, vous avez votre cerveau implicitement a des capacités extrêmement limitées pour computer ces informations. Et donc, il va utiliser des manières de la traiter qui ne sont pas toujours des manières classiques, les manières classiques de la rationalité. Puis le troisième élément, c'est que le pouvoir sur soi-même est limité. C'est-à-dire que même si vous êtes rationnel, que vous vous dites, voilà comment je vais faire les choses, par exemple, sur un horizon intertemporel, ce soir je vais au séminaire, demain je vais à la plage, et puis après-demain je vais au cinéma, d'accord ? Eh bien, vous avez du mal à vous tenir à vos plans rationnels de choix. D'accord ? Et donc, il y a beaucoup d'absents ici. C'est tous ceux qui sont dit, je vais au séminaire et après j'irai à la plage. Et puis qui, en fait, à 6h20, se sont dit, bon, allez, on va quand même aller à la plage. Donc, c'était tout à fait rationnel d'aller au séminaire, ensuite à la plage. Et puis, en fait, au dernier moment, ils changent de choix par rapport à ce qu'ils avaient dit la veille. Ici, vous voyez que ça tangue du côté de la rationalité lorsque l'économie comportementale arrive, et ça tangue sur ces trois points, l'égoïsme, les capacités cognitives, le pouvoir sur soi-même. Moi, je vais surtout insister sur les capacités cognitives. Il y a juste un point qui est très, très important ici, c'est que ce que je vais dire ne porte pas sur la perfection de l'information. Il est évident que nous n'avons pas toute l'information disponible, d'accord ? Mais on peut tout à fait être parfaitement rationnel tout en n'ayant pas toute l'information disponible. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on traite l'information même partielle que l'on a à propos soit des autres, soit de l'environnement dans lequel on agit. D'accord ? Et les capacités cognitives limitées, ce n'est pas un problème d'information limitée, c'est un problème de capacité de l'individu à traiter correctement ces informations. Vous avez sûrement passé des soirées à essayer d'expliquer à quelqu'un qui joue au loto que ce n'est pas parce que le 12 est sorti hier que sa probabilité est beaucoup plus faible ce soir. D'accord ? Et il y a des gens qui croient, c'est-à-dire qui pensent qu'effectivement, comme le 12 est passé hier, peu de chance qu'il sorte. Et donc c'est ça ce qu'étudie l'économie comportementale. C'est-à-dire, comment un agent peut y croire à ça ? Et comment est-ce qu'il peut être rétif au fait qu'on lui explique que les lois de probabilité, ce sont des tirages aléatoires indépendants, donc le 12 se souvienne aujourd'hui qu'il a été tiré hier. Complètement une sorte de pensée magique, un peu, dans une certaine mesure. Alors, vous comprenez aussi que je peux taper sur l'agent rationnel, mais ça ne me fait pas une théorie. C'est-à-dire que, je vais critiquer l'agent rationnel, etc., mais je n'ai rien conçu, j'ai juste détruit ce qui existait du point de vue analytique ou du point de vue théorique. Et donc, l'enjeu de la théorie comportementale, c'est de construire réellement une vraie théorie de l'action qui ait un sens. Alors, j'ai déjà pris plusieurs exemples. J'en avais repris un de collègues de Toulouse, qui est le jeu suivant, pour un peu vous montrer comment on peut rendre tout ça un peu expérimental. Mes collègues de Toulouse, qui sont des psychologues, ont fait l'expérience suivante. Ils ont pris des gens comme vous, surtout des étudiants, parce que ça coûte pas très cher pour les payer, etc. Ils leur ont dit, voilà, vous avez un dé à 6 faces, et vous allez lancer ce dé. Et puis, si vous tombez sur le nombre gagnant, vous gagnez 12 euros. D'accord ? Alors, je ne sais pas quel nombre va sortir, ok ? Donc j'ai une chance sur 6 de gagner, normalement. On leur pose comme question, combien est-ce que vous êtes prêt à jouer ? Combien vous êtes prêt à payer pour jouer à ce jeu ? D'accord ? Donc, évidemment, il y a des gens qui sont très averses au risque, qui n'aiment pas le loto ou ce genre de choses, qui ne sont pas prêts à payer beaucoup pour ce genre de tirage à la fois. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus explorateurs, qui aiment beaucoup le risque, et donc qui sont prêts peut-être à payer davantage pour jouer à un tel jeu. Et ça relève vraiment de la théorie de l'action rationnelle. Ça dépend vraiment de vos préférences par rapport au risque. D'accord ? Donc ça ne remet pas du tout en cause le fait que certains veulent jouer ou pas, ou soient prêts à payer plus ou moins. Ça ne remet pas en cause la théorie de l'action rationnelle. En revanche, cette question-là, elle est posée aux individus dans deux situations, c'est-à-dire sous deux protocoles différents. Le premier protocole est le suivant. C'est que le nombre gagnant s'affiche et vous tirez le dé. D'accord ? Le deuxième protocole, c'est vous lancez le dé et pendant que le dé roule, le numéro gagnant s'affiche. C'est tout à fait pareil. Du point de vue des probabilités, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il s'affiche pendant qu'il roule ou avant. Vous avez une chance sur 6 de gagner. Mais mes collègues montrent que les agents sont souvent prêts à payer davantage dans la première situation que dans la deuxième. Alors, on voit ça avec les enfants, je ne sais pas si vous avez le temps, mais les jeunes enfants pensent que le dé, j'ai beau leur expliquer les probabilités, ils ont beaucoup de mal à comprendre, ils pensent que le jeu de dé, c'est un jeu d'adresse. C'est-à-dire, si je sais ce qu'il faut faire, alors oui, j'ai une sorte de pouvoir là, et je dis à mon dé, il faut que tu fasses 6. Et ici, c'est exactement la même chose. En tout cas, c'est comme ça qu'ils rationalisent leur résultat, de dire, le tirage aléatoire est considéré dans le premier cas comme un jeu d'adresse, et dans le deuxième cas comme vraiment quelque chose d'aléatoire sur lequel l'agent n'a pas d'influence. Bon, on voit ici ce que l'on peut tirer, vous voyez, d'une analyse précise de comment se comportent les agents si on les place dans différents types de contextes. Et ça, c'était l'idée initiale de Kahneman et Tversky. C'est ce qu'ils ont fait pendant 30 ans, et puis 25 ans, et puis Kahneman continue à énormément écrire sur le sujet. C'est-à-dire, ce qui les intéresse, en fait, c'est de caractériser des irrationalités. C'est-à-dire de dire, on n'est pas irrationnel ne veut pas dire que c'est du n'importe quoi, nos actions. On est irrationnel, mais de manière prédictive, de manière... ça va toujours un petit peu dans le même sens. Okay ? Donc ce que fait l'économie comportementale, c'est d'identifier des contextes de décision où les agents ont plutôt tendance à se comporter d'une certaine manière.
Et ce que vous avez dans la littérature, c'est la notion de biais et d'heuristique, qui sont des idéotypes, dans une certaine mesure, d'irrationalité. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la perspective de Kahneman, d'essayer de faire une cartographie de tous nos biais, de toutes les mauvaises manières que l'on a d'interpréter le monde, ou d'analyser des situations, ou d'évaluer un certain type de problématique. Alors, je vais vous en donner quelques exemples, parce que c'est vraiment, si on met la main dans le cambouis, qu'on voit l'intérêt de ce genre d'approche. Un biais assez classique, c'est le biais de rationalisation. C'est-à-dire, si un événement s'est réalisé, alors vous pensez que cet événement avait une probabilité très élevée de se réaliser. D'accord ? Mais ça n'est pas forcément du tout le cas. C'est-à-dire, le fait que ça s'est réalisé ne signifie pas que ex ante, la probabilité que ça se réalise soit forte. Là aussi, j'ai beaucoup d'expérience avec les étudiants parce que je suis responsable d'une formation à l'université de Rennes. Donc, quand vous interrogez les étudiants en disant « Alors, est-ce que ça s'est bien passé, vos examens ?» ou « Comment sont passés vos examens ?» Ils ont les résultats. Et là, ils vous disent « Non, j'ai raté, mais c'était sûr. » C'est-à-dire qu'ils rationalisent les choses en disant « Il n'y avait pas de raison que je les ai. » Un deuxième type de biais, c'est le biais de statu quo. C'est-à-dire, quand on vous met dans un certain contexte ou sous une certaine règle, qui est une règle par défaut, par exemple, alors vous avez tendance à y rester plutôt qu'à modifier ce statu quo. Là aussi, on trouvera des exemples en droit tout à l'heure. Le troisième biais, c'est le biais d'optimisme. C'est-à-dire penser que les événements négatifs, on peut tout à fait avoir des probabilités objectives quand il s'agit des autres, mais quand il s'agit de soi, on pense que la probabilité est faible qu'un événement négatif nous arrive, et la probabilité est élevée qu'un événement positif nous arrive. Donc typiquement, pour reprendre mon exemple des étudiants, en fait, si vous les interrogez avant l'examen, je leur dis que ça va aller, les examens, ils disent « je gère ». Et puis après les examens, ils disent « non, j'ai raté, moi c'est sûr ». C'est-à-dire que vous voyez que là, vous avez différents biais qui peuvent interagir comme ça au fur et à mesure. Alors après, il y a des heuristiques un peu plus complexes chez Kahneman qui, en fait, chez lui, s'appuie sur une description cognitive du processus de prise de décision, ce qu'il appelle l'heuristique de disponibilité. Kahneman nous dit, si jamais on me demande d'évaluer, là encore par exemple, la probabilité d'un événement, si je peux trouver dans mon esprit un exemple de cet événement, alors je vais avoir tendance à considérer que cette probabilité est assez importante. Si je n'arrive pas à trouver d'exemple, je vais considérer que cette probabilité est relativement faible. Okay. Donc ça, c'est la capacité de l'esprit à mobiliser des exemples connus par rapport à un scénario qu'on lui propose. Autre type d'heuristique, l'heuristique de représentation. Ici, c'est deux situations qui peuvent tout à fait vous apparaître comme étant similaires, alors même qu'elles sont extrêmement différentes. Là aussi, je prendrai des exemples de droit tout à l'heure. Et puis, la dernière heuristique, peut-être la plus simple, c'est l'heuristique d'ancrage. Lorsque vous recevez, par exemple, une information numérique qui n'a rien à voir avec un problème que je vais vous poser, eh bien, cette information numérique va rester dans votre esprit et va jouer un peu comme une sorte de poids par rapport à la manière dont vous révisez vos croyances. Là encore, si je peux prendre, c'est un tout petit peu café du commerce, ce ne sont pas des expériences tout à fait contrôlées selon les canons des économistes, mais quand vous prenez ce jeu très connu, peut-être que vous avez ça en Belgique, qui est le panier garni dans les kermesses. Vous avez un panier dont vous ne connaissez pas le poids, vous devez sous-peser ce panier. Les gens arrivent les uns après les autres, en fait, le panier, c'est un problème d'évaluation du poids en incertitude. On connaît un résultat en économie depuis longtemps qui est que normalement, ça devrait faire une gaussienne autour de la vraie valeur. Personne ne se trompe de manière systématique. Il y en a qui sous-estiment, il y en a qui surestiment, mais il n'y a pas de biais systématique. Quand vous jouez à ce jeu, mais que le tableau sur lequel est affiché les évaluations de chacun est disponible, alors vous pouvez remarquer la chose suivante, j'en ai vraiment fait l'expérience, que
se situer par rapport à cette première élévation. Il va dire, est-ce que je sous-pèse moins que ce qu'il a dit la première ou plus. Et vous allez obtenir une gaussienne, mais décalée par rapport à au poids réel. Alors, ceci n'est tout à fait différent de l'expérience tout à l'heure, qui est une vraie expérience de mes collègues de Toulouse. Ça, c'est vraiment le café du commerce.
Donc, ne jouez pas non plus des millions de dollars sur cette heuristique d'ancrage si vous jouez au panier garni. En tout cas, la conclusion de ça, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, irrationnel ne veut pas dire n'importe quoi.
Et on peut être irrationnel de manière prédictive parce qu'en fait, on suit des biais relativement bien identifiés. Alors, il y a beaucoup hein, de biais différents dans la littérature, mais disons que vous avez un petit...
Une petite liste à la Prévert, disons, des biais les plus utiles. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça pour le droit ? Eh bien, l'économie du droit qui s'est emparée de l'économie comportementale nous dit, en fait, un premier enjeu qui est que si on considère que les agences se comportent de cette manière, c'est-à-dire suivent des biais ou des heuristiques, alors il y a un nouveau rôle social du droit qui est de réfléchir aux environnements informationnels dans lesquels les agents sont placés. Parce que ces environnements peuvent susciter plus ou moins de biais par rapport à une décision rationnelle. Ça veut dire aussi que le système juridique peut intervenir sur le comportement des agents d'une manière différente d'auparavant, pas simplement en regardant les prix et les sanctions, mais par le biais de canaux cognitifs, c'est-à-dire d'influence sur ces biais. Et puis, potentiellement également, cette approche peut fournir de nouvelles ressources pour la théorie de l'interprétation, c'est-à-dire de se demander, mais finalement, est-ce que les juges, dans leur travail de tous les jours, est-ce qu'implicitement, ils n'utilisent pas des mécanismes, ils n'ont pas des représentations qui seraient relativement proches de l'économie comportementale quand ils ont à décider d'un certain nombre de cas. Vous voyez que ici, il y a plusieurs manières pour le juriste de regarder l'économie comportementale ou de s'emparer de l'économie comportementale. Et on a deux grands modèles qui sont ce que l'on appelle le redressement cognitif et le paternalisme libéral. Et c'est ces deux grands modèles que je voudrais développer dans le temps qui me reste. Premièrement, le redressement cognitif. Ici, ce que l'on attend du droit, c'est que, si on suit vraiment cette perspective des connaissances comportementales,
c'est de dire, finalement, si le droit a un rôle au sein de cette littérature, c'est qu'il devrait participer à l'élimination des erreurs systématiques ou l'élimination des biais subis par les individus. Par exemple, il se peut tout à fait que certains acteurs privés au sein du système social participent à la construction artificielle de biais ou bien participent à, au fait que les biais perdurent dans le temps plutôt qu'ils ne se réduisent. Donc là, vous voyez qu'un acteur qui parle une politique, par exemple, de vente ou une politique commerciale particulière, finalement... permet de maintenir le biais des individus à son avantage. Ça, c'est peut-être un acteur qui devrait être régulé par le système juridique et par le juge. C'est-à-dire, on pourrait dire que le juge est tout à fait légitime à intervenir pour limiter l'utilisation de ces biais par des acteurs privés. C'est vraiment le modèle de Curran et Sunstein sur les cascades de disponibilité, où ils ont trois agents, des agents biaisés, des entrepreneurs rationnels qui connaissent les biais des consommateurs, et puis un juge. D'accord ? Les entrepreneurs de biais, cherchent à instaurer ou distiller ces biais ou les maintenir. Et Curran et Sunstein nous disent, mais dans ce cadre, l'un des rôles cognitifs du juge, c'est de lutter contre ces comportements. Dans mon exemple de la loterie, on pourrait se demander est-ce qu'il est légitime que la Française des Jeux publie les fréquences de sortie des numéros. à la fois, vous pouvez dire que c'est une information qui va montrer que ça converge vers 1, en France, c'est 49 numéros en moins. Ça converge vers 1 sur 49, d'accord ? C'est convergent, donc forcément, des fréquences qui ne correspondent pas tout à fait à la probabilité. Donc vous pouvez dire que ça débiaise les individus parce que ça leur montre que tout ça converge. Il n'y a pas un numéro qui est beaucoup plus, qui sort beaucoup moins souvent que l'autre. En même temps, vous pouvez dire, oui, mais en fait, comme on est sur un nombre de tirages qui reste limité, les fréquences sont assez diverses et ça peut entretenir les agents à jouer plutôt certains numéros que d'autres et à penser qu'ils ont une chance plus importante qu'ils n'ont en réalité. Donc ici, cette première représentation du juge, c'est vraiment de le considérer comme un acteur rationnel dans un monde qui serait peuplé d'agents, enfin au moins partiellement, d'agents irrationnels. Alors, je vais prendre un exemple
qui est là des recherches que j'ai faites. J'ai pris avec un de mes collègues de Nancy, qui est Marc Deschamps, on a étudié 5 ans de pratique décisionnelle de l'autorité de la concurrence française.
Donc, on est sur une juridiction administrative qui s'occupe des ententes et des adjudications de bilan. D'accord ? Donc, c'est vraiment une juridiction assez économique, si vous voulez. Elle est pilotée par des économistes essentiellement, aussi par des juristes, mais les économistes sont très bien représentés à l'autorité. Et on s'est demandé, mais finalement, est-ce que l'autorité, implicitement, n'admet pas des arguments d'économie comportementale pour caractériser des avis de position dominante. Alors, on a fait ce travail sur l'autorité française. Il y avait un papier de Petit et Nérinck, donc de l'Université de Liège, qui était sur le même thème, mais un peu appliqué à l'autorité, à la Commission européenne et aux autorités européennes de concurrence, qui est l'affaire Microsoft, et qui est sûrement la plus grosse affaire de ce type de choses. Dans l'affaire Microsoft, devant la commission puis le tribunal, l'un des problèmes était les règles de défaut que Windows impose dans, je comprends toujours, je suis tellement bien informatique, mais dans Windows, les règles de défaut sur d'autres produits produits par cette firme, notamment Windows Media Player et Internet Explorer. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous recevez un ordinateur, il y a une position dominante tout à fait claire de Microsoft sur les systèmes d'exploitation. Mais en revanche, sur ces logiciels, genre lecteur de Sublime et puis Internet Explorer, il est en concurrence avec d'autres firmes. Mais comme il impose par défaut d'utiliser Internet Explorer, ce qui était reproché ici, c'est d'utiliser sa position dominante sur les systèmes d'exploitation pour en fait acquérir une position dominante sur un marché connexe qui est celui des lecteurs multimédia. Et tout l'argument du tribunal repose sur cette question du statu quo en disant, comme vous imposez des règles de défaut particulières, en fait vous imposez un statu quo et il est souvent relativement difficile pour les acteurs de sortir de ce statu quo initial. On retrouve notre idée de biais de statu quo, si vous voulez, mais là, utilisé par une juridiction pour caractériser un abus de position de dominante. Et dans le cas français, on retrouve pas mal d'affaires, alors qui ne sont pas des affaires énormes, c'est-à-dire c'est souvent des affaires relativement petites, mais on retrouve pas mal d'affaires où ce qui est reproché à une pratique particulière, c'est justement d'introduire, par exemple, de la confusion dans l'esprit des consommateurs, ou vraiment d'entretenir une erreur, ce genre de choses. Là, vous avez des citations très claires de l'autorité, où elle emploie ce genre de terme, erreur systématique, qui rappelle vraiment l'économie comportementale. Alors, juste, je ne sais pas combien d'étudiants font de la recherche plus tard, mais le chercheur, il essaye de trouver une pépite, quoi, un truc qui correspond parfaitement à son idée, qui ne peut jamais complètement. L'affaire qui colle le plus à ça, je pense, c'est l'affaire Sanofi à propos du Plavix, qui était un médicament sous brevet produit par Sanofi jusque dans les années 2000. En 2000, le brevet tombe dans le domaine public, il est donc concurrencé par des médicaments génériques. Et la toute petite difficulté, c'est que l'excipient qui sert aux médicaments génériques, lui, il est encore sous brevet. D'accord. Donc en fait, Teva Santé, qui est le laboratoire génome, ne peut pas utiliser le même excipient dans son génome. Et l'ensemble de la communication auprès des praticiens, des pharmaciens, de Sanofi, c'est de dire, attention, c'est pas le même médicament, parce qu'il n'y a pas le même excipient. D'accord. Et là, on est typiquement dans un biais de représentation pour l'autorité, parce que le message que véhicule Sanofi, c'est que les deux médicaments sont différents, mais cette différence ne porte pas sur la bioéquivalence, c'est-à-dire ne porte pas sur le principe actif, mais porte sur l'excipient qu'on lui ajoute pour lui donner sa forme, le comprimé, ce genre de choses. Okay. Donc là, on voit bien que la pratique ici de Sanofi peut tout à fait être rationalisée sur le fondement d'un biais de logistique de représentation. Et ça suppose qu'en fait, vous envisagez les justiciables comme participants de ce biais, c'est-à-dire comme étant victimes de manière très très importante de ce biais cognitif. Okay. C'est que à cette condition que vous pouvez utiliser l'économie comportementale comme un outil d'interprétation des règles ou un outil pour mieux appliquer des règles ou pour donner un sens plus précis à des expressions larges comme abus de position de mur. D'accord. C'est-à-dire que derrière, en fait, vous acceptez cette idée, derrière, quand vous dites cette pratique de Sanofi, c'est un abus de position dominante, eh bien, vous êtes en train de supposer tout un modèle d'action où les consommateurs sont supposés être biaisés du point de vue politique. Voilà, alors, c'est un premier modèle, si vous voulez, où le juge est vraiment mis sur un piédestal, parce que lui est rationnel, il ne suit pas le biais, il voit les autres, il voit ceux qui sont biaisés, il voit les individus biaisés, et il joue son rôle de remettre les individus dans des contextes d'information où ils pourront correctement traiter toutes les informations qu'ils ont à leur disposition. Mais le redressement cognitif, c'est difficile. C'est difficile pour la raison que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez passer une soirée à expliquer à quelqu'un que les deux tirages du loto sont indépendants, et c'est pas sûr qu'à la fin, il croit. C'est-à-dire que le biais, c'est pas simplement une erreur en passant. Ça peut être quelque chose qui impacte vraiment très en profondeur le comportement individuel. Si jamais vous avez subi un biais de procrastination, c'est-à-dire de toujours remettre à demain ce que vous faites aujourd'hui, vous voyez, c'est un biais qui est très profond. Beaucoup de fois, vous avez dit, mais c'est vraiment la dernière fois. S'il y a des gens qui disent des thèses, etc., ils sont complètement à la ramasse. Je n'ai jamais cru, mais si. Quand vous candidatez sur un poste, etc., vous savez toujours pareil à faire au dernier moment, ce que vous pouviez faire, tout ça. Donc c'est vraiment un des biais qui pèserait lourd, et donc redresser les agents est extrêmement compliqué.
Alors ça fait le lien avec une deuxième modalité, qui est ce qu'on appelle le paternalisme libéral. Dans ce cadre-là, vous ne cherchez plus à rendre les agents plus rationnels, mais vous allez plutôt construire un modèle normatif du système juridique qui utilise les biais des acteurs. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, je prends acte que les individus subissent des biais, que c'est compliqué de les redresser, ces biais. Mais est-ce que je ne peux pas les finalement utiliser ces biais comme Newton qui disait... Je crois au Bacon qui disait qu'il faut obéir à la nature pour lui commander. Donc là, commander à l'individu en obéissant au fait qu'il a des biais cognitifs très importants qui ont des conséquences sur son action. C'est le modèle de Sunstein, et c'est un modèle, en fait, plus généralement, que l'on retrouve beaucoup en économie en ce moment. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de publications sur le lien entre politique publique et paternalisme. Alors, comme je n'ai pas trop le temps, je ne vais pas rentrer dans les détails plus analytiques du paternalisme, mais pour vous donner un exemple, les tenants du paternalisme libéral vous disent que finalement, peut-être qu'il est possible d'utiliser certains biais pour induire une action des agents qui soit finalement favorable à leur propre bien-être à eux. C'est-à-dire que c'est ça qui est paternaliste, en ce sens que vous cherchez bien le bien-être de l'individu. Mais vous le faites sans réel consentement de sa part, puisque
vous le mettez dans des contextes qui font qu'il a plutôt tendance à agir d'une certaine manière que d'une autre. Ça reste libéral en ce sens que vous le placez dans différents types de contextes, mais s'il a envie de changer, il peut toujours le faire. Sa liberté formelle de choix est tout à fait maintenue. Alors c'est ça qui peut peut-être intéresser le plus le public des étudiants philosophes qui sont là. C'est-à-dire que ça pose une question sur qu'est-ce que l'on entend par liberté individuelle. Est-ce que la liberté, c'est simplement de pouvoir, si je veux, faire le choix que je décide. Et donc, est-ce que cet aspect paternaliste maintient intact la liberté des individus ou pas? Alors, je vais prendre quelques exemples très simples qui sont tirés là aussi de Sunshine. Sunshine raconte qu'à Chicago, si vous avez déjà été, il y a un grand autoroute qui longe le lac, en fait. Il y a une épingle à cheveux extrêmement dangereuse. Et les autorités de la voirie américaine ont mis des bandes blanches, d'accord, sur la voirie, mais des bandes blanches qui ont toujours la même largeur, mais qui sont situées à des distances qui sont de plus en plus proches. C'est-à-dire que si vous roulez à vitesse constante sur cette voie, alors les bandes blanches vont passer sous vos roues à une vitesse qui augmente. Ici, c'est tout à fait un mécanisme de paternalisme libéral. C'est-à-dire que vous placez les individus dans un certain contexte informationnel. Ici, c'est l'information que mon cerveau traite quand il voit ces bandes blanches passer à une vitesse. Mais en fait, vous êtes en train de lui mentir. C'est-à-dire, vous lui faites croire que ces bandes blanches sont espacées de la même distance, comme d'habitude. Et en fait, non, elles sont de moins en moins espacées. Ça vous donne donc une impression de vitesse qui vous amène implicitement à ralentir. Alors, si vous prenez en droit, il y a beaucoup de règles qui peuvent être rationalisées sur le fondement de l'économie comportementale. Je parlais tout à l'heure pour Microsoft des règles de défaut. Ici, vous voyez que si vous pensez que le statu quo est important, c'est-à-dire que selon que je suis sous une certaine règle ou sous une autre, je vais plutôt m'attacher au statu quo, quelles que soient mes préférences. Alors le choix du statu quo est fondamental. Et là, le droit a un rôle à jouer très important en disant quelle est la règle de défaut qui s'applique. Je ne sais pas, par exemple, si vous prenez le don d'organes, vous pourriez dire il y a deux règles possibles. Soit on présume que tout le monde est prêt à donner son organe à son mort, soit on présume le contraire. Si vous pensez que le statu quo est important, ça veut dire qu'il y a des gens qui, parce que voudraient bien donner leurs organes, mais étant donné la règle de défaut existante, jamais ils ne feront les démarches pour signer effectivement le papier comme quoi ils sauveront le test volontaire. Ils peuvent être optimistes, ils ont pensé qu'ils ont peu de chances de mourir demain, donc ils vont procrastiner, ils feront ça plus tard. Et on peut rationaliser tout à fait ce comportement en disant, même si je veux absolument donner mes organes, je ne vais pas faire le papier tout de suite. Si la règle de défaut, c'est qu'il faut que je fasse le papier. Et le paternalisme libéral, il va changer la règle du coup. Supposer que la règle, c'est pas tout. On présume que tout le monde est d'accord, mais vous laissez la liberté formelle aux agents de faire le contraire, c'est-à-dire, si jamais ils ne sont pas d'accord, alors là, ils doivent rédiger le papier. Il y a pas mal d'expériences, notamment de Thaler, qui testent un peu ces différents types de règles de défaut, et où on voit, expérimentalement, ou par des analyses empiriques sur des vrais individus, que la règle de défaut peut tout à fait jouer un rôle très important dans le contexte, final. Appliqué à des droits comme le droit de la consommation, par exemple, ou le droit de la concurrence, vous voyez que si vous réfléchissez au mécanisme de class action, par exemple, est-ce que tout le monde est supposé faire partie de la class action ou est-ce qu'il faut faire une démarche pour y être? La règle de défaut peut avoir un impact sur les acteurs. Et puis vous avez tout ce qui concerne ce qu'on appelle le framing de manière générale, c'est-à-dire le cadrage informationnel dans lequel sont les acteurs qui leur permettent de plus ou moins facilement traiter l'information. Voilà, alors toujours dans ce papier un peu sur l'autorité française, on s'est demandé ensuite avec Marc Deschamps si on pouvait voir des dispositifs paternalistes au sein de l'autorité de la concurrence. Et en fait, on n'en a pas réellement trouvé, sauf quand le régulateur ou le pouvoir administratif réglementaire, lui, a mis en place un mécanisme de paternalisme libéral là, on a l'impression que l'autorité de la concurrence se met sous ce parapluie et dit, dans la mesure où la réglementation est paternaliste libérale, eh bien, moi, je ne veux pas aller contre. L'exemple principal, c'est encore le marché des médicaments, mais si vous connaissez un peu le contentieux sur le droit de la concurrence, il y a quelques secteurs qui sont hyper bien représentés, qui sont toujours devant le juge. Il y a les laboratoires pharmaceutiques, il y a les cimentiers, il y a un nombre de gens qui sont des classiques, disons. Donc c'est assez normal qu'on trouve beaucoup de choses là-dessus. Mais en France, la politique du ministère de la Santé sur les génériques, c'est de supposer le consentement aux génériques. C'est-à-dire que quand le médecin marque un certain médicament, le pharmacien, lui, suppose que le générique peut être donné contre cette prescription d'un médicament. Donc la règle par défaut, c'est le générique peut être toujours substitué au médicament, sauf mention explicite du praticien. Le praticien peut toujours dire non, pas de substitution possible. Mais la règle, c'est la règle de défaut, n'est pas le contraire. On aurait pu avoir une règle de défaut, où c'est le médicament clinique qui est prescrit, et si jamais le médecin demande, ou si le patient demande, on peut fournir le générique. Ici, on voit bien qu'on est dans un cadre de paternalisme libéral. Vous pouvez toujours faire le contraire si vous le souhaitez, mais on vous incite, par ce biais un peu de cette info, à rester dans le mécanisme paternaliste. Et là, l'autorité, en gros, dit, avec mes mots à moi, elle ne dit pas comme ça, évidemment, mais l'autorité nous dit, étant donné que la réglementation sanitaire, c'est celle-ci, moi, je contrôle que les communications des grands laboratoires pharmaceutiques ne doivent pas interférer avec ce mécanisme.
Bien. Alors, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Juste pour conclure, voyez que dans tout ce que j'ai raconté, il y a un premier bloc qui est que le justiciable est vu de manière complètement différente dans l'économie comportementale et dans le modèle standard. La rationalité parfaite reste quand même un étalon auquel je compare le comportement éthique, donc elle est quand même utile. Et puis, ce n'est pas simplement un discours qui serait uniquement un discours externe au droit, qui s'intéresse uniquement au comportement des acteurs, mais on voit bien que ces développements ont un impact aussi sur la manière dont on se représente le droit, son rôle, et puis la manière dont il se trouve être appliqué ou interprété par les autorités judiciaires, ici des juges. Mais il reste une question très épineuse et qui fait l'objet de beaucoup de... qui commence à faire l'objet de pas mal de publications, c'est le biais des autorités judiciaires elles-mêmes. C'est-à-dire que tout ce que j'ai raconté sur le justiciable, en fait, vous pouvez dire, mais le juge est un homme, c'est-à-dire est-ce que lui ne subit pas aussi ce genre de biais de rationalisation auto-optimiste, je pense que sa décision ne sera pas infirmée s'il va à l'état supérieur, etc. Donc, peut-être que lui subit aussi pas mal de biais dans son travail concret de tous les jours lorsqu'il a décidé d'affaires ou de cas. Et donc, il y a quelques expériences dans la littérature où, par exemple, on ne fait plus jouer des étudiants, mais on fait jouer des juges. Donc, on leur propose différents scénarios, on les met dans différents types de protocoles, et on regarde comment est-ce que se comporte. Alors, l'expérience, juste pour terminer là-dessus, que je préfère, c'est vous mettez 100 juges, Guthrie, Rachninski et Listrich qui ont fait ça, ils ont mis 140 juges, je crois, américains, et ils leur ont dit, voilà, est-ce que tu penses que, en gros, tu es un meilleur juge que les autres? Et le critère qu'on a proposé comme meilleur juge, c'est est-ce que ta décision a une probabilité élevée d'être modifié si jamais les parties ou l'une des parties fait appel. Et 85% des gens présents dans la pièce pensent qu'ils sont meilleurs que la moyenne. Alors vous voyez bien que là, c'est de l'auto-optimisme. C'est comme si je vous demandais est-ce que vous pensez que vous êtes meilleur conducteur que la moyenne de ces gens qui sont dans la même pièce que vous. Il y a beaucoup, sûrement on arrivera à des taux de 70-80%. Donc on pense qu'on est mieux que la moyenne. Mais évidemment, il peut y avoir 80% de gens qui sont meilleurs conducteurs que la moyenne des personnes présentes. Donc là, c'est vraiment un champ qui se développe énormément et qui remet un petit peu en cause ce que j'ai dit, parce que dans le modèle du redressement cognitif, comme dans celui du paternalisme libéral, vous avez quand même une vision du juge qui est une sorte d'ingénieur social qui ne doit pas subir ces biais, qui est quand même plus rationnel que les autres membres
du système social. Voilà, j'en ai terminé.
Je vous remercie.